Le Salon du Livre Policier de Lens s'installe dans la durée. Pour cette édition 2013, les auteurs étaient, comme les spectateurs, nombreux au rendez-vous. Enquête sur ce salon littéraire d'un genre particulier.
Et le prix de la ville de Lens 2013 du premier roman policier, après délibération, est à Frédéric Rapilly pour Le Chant des Armes. Je vous donne la lettre et le sou parce que c'est beau.
Frédéric Rapilly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le lauréat de cette édition 2013 du Salon du Livre Policier de Lens.
Oui, oui, je viens d'apprendre ça. Je suis surpris et en même temps ravi, quoi. Voilà.
Cette distinction récompense une œuvre ou un livre particulier ?
Alors pour l'instant, je suis quand même un inconnu, donc ça récompense un premier roman. J'en ai écrit un deuxième depuis, qui est la suite. J'espère que ça va me permettre d'être découvert, de mettre un peu la lumière sur mon travail, entre guillemets. Mais voilà, c'est le début, j'espère, de quelque chose. Alors, le titre, c'est donc Le Chant des âmes. Le livre s'appelait au départ Techno Killer, qui était nettement plus underground comme titre. Et c'est devenu Le Chant des âmes parce que donc, ça se passe dans l'univers de la musique électronique. Et il y a un livre qui s'appelait Le Chant des machines pour raconter que les machines avaient une âme. Et comme mon livre tourne autour de l'idée du son et d'un tueur qui va sacrifier des jeunes femmes pour enregistrer leur dernier cri et utiliser ce cri pour toucher au divin, il y avait tout un travail autour du chant des machines et de ce que pouvaient donner ces sons pour toucher le divin. Donc c'est devenu Le Chant des âmes, hein, voilà, qui est un titre un peu poétique, mais quand on gratte un petit peu, qui est aussi un peu effrayant, voilà.
Donc vous allez travailler dans la durée avec cette maison d'édition qui s'appelle ?
Alors cette maison d'édition s'appelle Critique, c'est un libraire au départ qui a lancé une petite maison d'édition avec un auteur qui s'appelle David Cara qui a eu énormément de succès. Et David Cara et moi on était copains à la faculté et j'ai signé pour un premier roman, un deuxième qui est sorti et j'ai un troisième qui est en cours d'élaboration en ce moment.
Je suppose que la maison d'édition doit être heureuse de ça.
Oui, ils ont un auteur phare qui s'appelle David donc Cara qui a vendu plus de 100 000 exemplaires chez eux, qui s'en va maintenant chez Fleuve Noir. Et donc moi, je suis un peu le suivant, la deuxième locomotive, entre guillemets. J'espère que les ventes vont s'améliorer. Mais bon, ça se passe plutôt bien, voilà.
Donc on rappelle votre nom ?
Frédéric Rapilly.
Et le nom de votre ouvrage ?
Le Chant des âmes.
Merci.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
Gilbert Laporte.
Et donc, vous avez participé à ce prix ?
Tout à fait. Et j'ai perdu.
Quand on dit perdu ?
J'étais dans les quatre présélectionnés. Voilà.
C'est pas si mal.
Oui, c'est même très bien.
Avec quel ouvrage ?
Caroge. Caroge et puis un deuxième roman que j'ai écrit qui vient de sortir qui s'appelle Evangelium.
Ici vous êtes dans un salon
sympathique.
Déjà, pas sympathique. C'est la première fois que je fais un salon de ce genre. Donc c'est pas mes premières dédicaces, mais ce sont mes premières dédicaces un peu en grand format. Quoi.
Vous êtes spécialisé dans le format livre policier ?
Thriller. Thriller à composante historique. Voilà.
Avec combien d'ouvrages déjà à l'actif ?
Deuxième, et puis j'ai un manuscrit que je viens de terminer.
Bon, vous souhaite bonne continuation alors.
Merci beaucoup.
Ça sera peut-être pour l'an prochain.
Peut-être, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de la région ?
Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais.
Votre nom ?
Michael Moslonka. J'habite Noël Godot et je suis originaire d'Auchel, de Marlémine. Dans le cadre, Auchel et Marlémine sont d'ailleurs le cadre de mes romans policiers en fait.
Vous êtes régulièrement au Salon du Livre Policier de Lens ?
Dès que j'ai une nouveauté, je suis au Salon du Livre Policier de Lens, oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Donc ça fait plusieurs années. Et mon premier salon, ça devait être en 2005 ou en 2006.
Vous écrivez combien de romans par an ?
Ça dépend, en fait. À Minuit et Chasseuse d'Aboyer, il m'a fallu 6 mois, grosso modo. Et En Attendant les Verts, il m'a fallu 2 ans.
Et quand vous écrivez, vous avez un contexte régional ou pas du tout ?
Dans mes romans policiers, oui, en fait. En fait, le roman policier demande un cadre qui tienne la route, qui soit vraiment crédible pour le lecteur. Et pour être crédible, enfin, le cadre, il faut soit le connaître, soit le fantasmer. Je ne connais pas New York, je ne fantasme pas New York, mais par contre, je connais bien Auchel, Marlémine, je connais bien la région minière, le bassin minier. Donc à partir de là, voilà, je mets mes actions dedans, en fait.
Il y a une vraie richesse pour l'aventure policière dans cette région ?
Ah, mais complètement, ouais. Ah, totalement, ouais. Ouais. Alors, il y a une réalité. Alors, il y a un côté sombre, mais il y a aussi un côté lumineux, en fait. Et pour plein d'histoires, à mon avis, il y a des décors, en fait. Ça peut être un puits de mine, le chevalet de Marlémine recouvert de neige, il y a quelques années, dans un roman sentimental, par exemple. Ou alors les corons d'Auchel, où, voilà, où il y a un meurtre qui a eu lieu, par exemple. Il y a déjà des vrais gens, mais il y a des vraies âmes, en fait, qui sont là. Et il y a des histoires, et il y a des décors, il y a des lieux vraiment pour toutes les histoires, à mon avis. Ouais.
Ah ouais. Il y a des personnages récurrents dans vos romans, ou vous inventez à chaque fois de nouveaux personnages ?
Les personnages sont récurrents, oui, tout à fait. Ouais. Avec le petit truc en plus qui fait qu'un personnage qui fait que passer dans le premier roman peut devenir un personnage principal dans le second, en fait. Parce que voilà, chaque personnage n'est jamais là par hasard, ils ont une histoire derrière, et c'est vrai qu'à un moment donné, aller chercher un tel personnage pour dire, tiens, je vais développer sa vie, voir ce qu'il fait, enfin, c'est une aventure, en fait, avec ce personnage-là. Enfin, avec tous les personnages, donc il y a vraiment un univers finalement à développer, en fait.
Vous conseilleriez de les lire dans l'ordre chronologique ?
En fait, il y a deux modes de lecture. Soit on les lit alors chaque livre est bien fermé, c'est vraiment chaque histoire est bien fermée, chaque histoire est une histoire à part entière. Il y a effectivement un ordre chronologique, donc on suit le personnage, on voit en fait ce qu'il devient, et ou alors on prend par exemple le dernier en date, on le lit et après on revient en arrière et on voit comment le personnage a été.
Donc, pour cette édition, beaucoup d'élèves ont finalement travaillé aussi en parallèle avec des auteurs ?
Alors, oui, en fait, il y a eu des... Enfin, non, ils ont travaillé avec leurs professeurs, en fait. Et je sais que, personnellement, après, avec Résonance Culturelle, je suis intervenu dans leur classe, en fait, pour parler, justement, de l'écriture, de l'acte d'écrire, de leur propre expérience d'écrivain, en fait, leur propre expérience d'écriture. Et c'était d'une richesse. Il y avait un échange, déjà, d'auteur à auteur. Ils posaient des questions qui étaient des questions auxquelles ils étaient confrontés, notamment l'inspiration, comment on fait pour trouver l'inspiration. Et c'est vrai que ce qu'ils ont fait, pouvoir amener, alors il y a eu une cinquantaine de textes, donc beaucoup d'élèves ont travaillé derrière ça. Il faut travailler en groupe, la plupart ont travaillé en groupe, à trois ou en classe entière. Et quand on commence une histoire, il faut l'amener au point final, avec tout ce que ça implique, les choix collectifs, les hésitations, les questionnements, est-ce que ce que j'écris tient la route, voilà, est-ce que ça va donner quelque chose, où je vais, arriver au point final, c'est une formidable aventure, quoi. C'est très gratifiant, je trouve, c'est très valorisant. Et c'est vrai que, voilà, que ces élèves puissent être amenés à faire tout ça grâce à une association, grâce à leurs professeurs, grâce aux établissements qui jouent le jeu, enfin, c'est une merveilleuse aventure, quoi. J'ai rencontré les élèves du lycée Jaurès à Lens en février dernier. Quand je suis venu, certains m'ont fait lire où ils en étaient arrivés, en fait. Voilà. Et sinon, après, d'une manière générale, j'ai lu quelques textes, puisqu'en fait, j'ai fait partie du jury, en fait.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc vous venez de gagner un prix, c'est bien cela ?
Oui. Bah oui, on a gagné le prix littéraire.
Vous avez écrit un livre ?
Une nouvelle. C'est Attilio. Ça raconte l'histoire en fait d'un jeune qui s'appelle Attilio et en Italie, qui fait des études et va avec son oncle résoudre une enquête policière.
Son oncle qui fait partie de la police.
Et il va découvrir en fait que son père fait partie aussi de la mafia.
Mais bon après, si vous voulez savoir, il faut lire.
On va le trouver quelque part, ce livre ?
Je sais pas. Pour l'instant, il est sur les stands, mais après je sais pas si ça va se retrouver quelque part ou...
Vous êtes de quel établissement scolaire ?
Jean Jaurès, à Lens.
C'est un lycée, un collège ?
Un collège, oui.
Et il y a longtemps que vous écrivez ?
Non, bah, on a écrit juste pour le concours, mais avant on n'écrivait pas.
Non, on n'écrivait pas.
C'est une belle aventure pour vous ?
Ouais, on a apprécié de faire ça, c'était bien.
Ouais, enfin, en plus de gagner un concours, enfin, c'est bien, c'est valorisant.
Vous avez travaillé à deux pour écrire ce livre ?
Ouais, on a travaillé ensemble, ouais.
C'est compliqué à deux ?
On s'entend bien, donc ça passe facilement.
Surtout, on est plutôt dans une imagine, l'autre écrit, ou quelquefois on a les mêmes idées, donc ça a été plutôt facile.
Bah, on l'a fait principalement en cours, et puis après on l'a fini à deux pendant les vacances.
Et vos professeurs vous ont un peu épaulé ou...
Bah, ils nous disaient quand ça allait, quand ça n'allait pas, mais sinon on s'est débrouillé toutes seules.
Ouais. Surtout en fait, ils nous aidaient juste pour l'orthographe ou les syntaxes dans les phrases, c'est tout.
C'est une nouvelle passion alors ?
Peut-être.
Vous pensez continuer ?
Peut-être pour un autre concours, mais pour l'instant, non.
Peut-être pour le plaisir aussi.
Ouais. Bah, bonne continuation.
Merci.
Merci.
Karine Muller, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes ici au Salon du Livre Policier de Lens, édition 2013. Il y a une raison tout à fait particulière pour que vous soyez ici.
Eh bien, c'est en fait, j'ai publié un livre qui s'appelle « Sans crime contre l'art ». Et donc c'est pour ça que j'ai été invitée par le Salon, puisque mon livre effectivement est tout à fait dans le sujet, puisque je parle d'art et de crimes, mais ce ne sont pas des crimes, il n'y a pas mort d'homme. C'est-à-dire que je suis peut-être le seul auteur qui a écrit un livre qui peut s'apparenter à un livre policier, mais où il n'y a pas d'hémoglobine. Par contre, il y a des agressions contre notre patrimoine national.
C'est un livre qui se base sur des faits réels, de journalistes presque.
Oui, tout à fait. Ce sont des vraies agressions. Rien n'est inventé. Et effectivement, j'ai fait des recherches dans les archives, dans les journaux. Et j'ai recensé donc 100 crimes. En fait, il y en a 101 parce que j'ai rajouté quand même le vol de Rotterdam qui a eu lieu juste après que j'ai fini mon livre. Et donc, j'ai recensé 100 agressions dans le monde entier. Beaucoup évidemment en Europe et à travers les siècles, parce que la plus ancienne est aux environs de 350 avant Jésus-Christ et la dernière était il y a quelques mois. Mais je n'ai pas parlé de l'agression de Lens parce que mon livre était déjà terminé. Donc s'il y a une suite, par contre, c'est évident que j'en parlerai parce que j'ai été particulièrement touchée par cette agression, vu que deux mois avant, j'étais à Lens pour parler de mon livre.
Alors ces agressions, est-ce qu'elles ont quelque chose en commun, une motivation particulière ?
Pas vraiment. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a différents types d'agressions. Il y a les agressions avec des revendications politiques, si on peut dire, comme les Bouddhas de Bamiyan, ou le 11 septembre, parce que dans le 11 septembre, il y a eu évidemment énormément de morts, mais il y a eu aussi la destruction de beaucoup d'œuvres d'art, parce que les tours possédaient des œuvres d'art. Mais surtout, il y a des crimes par bêtise. Des gens qui entrent complètement ivres dans un musée et qui vont tout à coup détériorer une œuvre, ou alors par maladresse. Par exemple, il y a quelqu'un à Cambridge en Angleterre qui s'est pris les pieds dans ses lacets de souliers, qui a dévalé un escalier et qui a fait tomber trois grands vases de l'époque King. 500 000 livres à peu près par vase, donc c'est des choses absolument... Et le type en plus est sorti et a dit « Ah ben ils n'avaient qu'à mieux protéger leurs objets ». Donc avec des réactions même totalement aberrantes. Et sinon, il y a évidemment les faussaires, ceux qui copient des tableaux de maîtres et qui les vendent comme étant des tableaux de maîtres. Enfin, il y a différentes sortes, effectivement, d'agressions, mais il n'y a pas vraiment de... À part le vol, évidemment. Le vol, c'est en général toujours l'intérêt de gagner de l'argent, alors que essayer de vendre des œuvres qui font partie du patrimoine, c'est pratiquement impossible. Mais malheureusement, il y a des mafias parallèles quand même qui sont intéressées par ce genre d'objets, même la Joconde.
Alors, parmi ces crimes, il y a également des crimes, on va dire, qui sont perpétrés au nom d'une idéologie.
Oui, les Bouddhas de Bamiyan, ça c'était les talibans donc, qui ont détruit les têtes de ces Bouddhas, de ces immenses Bouddhas debout, et au nom d'une idéologie qu'on ne peut pas défendre, ça c'est clair. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment d'agression. Non, c'est plutôt du vandalisme, souvent gratuit, souvent de la bêtise.
À Lens, visiblement, c'est le cas. Hein.
Bah oui, à Lens, c'est une histoire complètement folle. Mais heureusement, ce n'est pas très grave, parce que la liberté avait suffisamment de couches de vernis pour que le feutre n'ait pas pu transpercer la toile. Vous savez, quand on intervient très vite sur une œuvre d'art, on peut beaucoup plus facilement la secourir. Et là, c'est ce qui s'est passé. La restauratrice est tout de suite intervenue, donc en fait, le geste était aberrant, mais enfin, d'après ce que j'ai compris, c'était une femme aussi un petit peu déséquilibrée, il n'y avait pas non plus de revendication.
Bon, la liberté a résisté à la bêtise humaine.
Exactement, exactement. Et la liberté, il faut qu'elle résiste, surtout en ce moment.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.